9h dans le bureau de Par Jupiter.
Et alors pour Noël, tu vas en Belgique?
Je sais pas, ça va dépendre d'Omicron. Hein.
Dites les gars, faudra peut-être s'affoler de nos invités du jour, non?
Parce... Ah mais t'inquiète, je jure, sois pas de Gaulle non plus, hein, c'est de la BD. Hein. Ouais.
10h dans le bureau de Par Jupiter.
Moi là où j'ai pas trop d'idées précises, c'est sur le 31.
Moi je sais jamais comment m'habiller.
Ouais, en plus cette année.
Non mais oh les gars, sérieusement.
Mais oh, détends-toi, Juju, ça va.
Tu diffuses ton stress là.
Oui. Non mais merde à la fin. Oh, on reçoit Dominique Grange et Tardi. Et vous causez fringues et bûches de Noël.
Mais ça va, c'est de la BD, c'est ça. Bah ça tombe bien, moi je suis belge, alors la BD c'est mon ADN.
Bah voilà, ouais.
Ok, donc c'est bon, tu te reposes sur tes acquis.
Je connais par cœur Gaston Lagaffe, Boulébi.
Spirou. Moi je maîtrise Spirou, ça peut aider pour Tardi.
Non mais vous avez perdu une roue, ma parole. Allez, ok, mise en route du plan hors sec.
13h dans le bureau de Par Jupiter.
Alors voilà, je vous ai amené Laetitia Gaillet. Vas-y Laetitia, toi qui es spécialiste BD, dis-leur que Tardi c'est pas Mickey.
Mais vous êtes sérieux?
Oh là, mais Laetitia t'as l'air tendue un peu aussi.
Ah, t'as pas de plan pour le 31 non plus,
ah,
je parie.
C'est ça.
Vous êtes des analphabètes culturels ou quoi?
Eh, doucement.
Ah bah oui, bah ça je vous avais prévenu, hein. Vous allez bien vous faire crier dessus.
Mais enfin, Tardi et Dominique Grange, quoi. Ce couple, c'est un monument de talent et d'engagement.
Ouais, et eux, pendant ce temps, t'as vu, ils flemmardent.
Mais vous allez vous faire broyer, puis vous allez coller la honte à tout France Inter.
Mais moi, je suis belge. Moi, je me disais que...
Ouais. Hein, t'es calé sur le Congo, mais la guerre d'Algérie...
Ah oui, ça, y a pas dans Boulébile.
T'as en Algérie, y a pas, on est sûr?
Eh ben, si j'ai un conseil à vous donner, Quick et Fluke, là...
Ah, ça, je connais, Quick et Fluke.
Au boulot!
Voilà. Ben, ça, c'est pas pour dire, mais je vous l'avais dit.
Bonjour, la France Inter, et bienvenue au sein de la frange radicale. Du bras armé, de la lutte pour la bien-pensance. Donc voici la devise, un seul être vous manque, et c'est Xavier Bertrand. Voici le sommaire. Pour faire oublier la violation des droits humains qu'elle pratique quotidiennement, l'Arabie Saoudite organise un Grand Prix de Formule 1 et un concert où sont annoncés Justin Bieber et David Guetta.
Vous êtes fiers de vous là en ce moment? Ça joue les mecs de gauche à la télé, ça chante pour l'Éthiopie. Quand il n'y a pas les caméras, tu peux crever. Hein.
La loi pour lutter contre la maltraitance animale vient enfin d'être adoptée par le Parlement. Certes, tous les animaux ne vont pas en bénéficier de la même manière, mais les militants se réjouissent quand même. Enfin, quand ils arrivent à être d'accord entre eux.
On est là pour bloquer l'abattoir, défendre la cause animale et toi tu fais brûler des merguez, putain !
À quoi sert l'histoire de l'art ? Elle a longtemps été nationaliste et patriarcale. Elle se raconte aujourd'hui différemment à travers l'art africain, les œuvres spoliées ou les femmes artistes.
Je disais la même chose. On nous raconte vraiment n'importe quoi à l'école.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et à nos côtés, Charline, à l'instar de nos invités, une équipe de gens toujours en duo. Avec celui que personne ne prendra jamais au dépourvu, à l'aise à la campagne comme à la ville, dans les MJC et bientôt dans les Zénith, Lucky Luke avec Jolly Jumper. Lui, il a pour fidèle compagnon son poêlon de raclette personnel. Bonjour Aymeric Lompré.
Bonjour Juliette.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, Aymeric?
Aujourd'hui, je vais vous parler féminisme.
Je vous l'interdis. Justement, bien que féminazi à titre honorifique, il ne peut s'empêcher de manipuler des objets à haute teneur phallique. Quand c'est pas une guitare, c'est un micro. Oui, sa psyché est complexe. Hello, Guillaume Meurice.
Bonjour tout le monde. Mais écoutez, ce matin, j'ai fait le tour des régions de France. J'étais au salon des vignerons indépendants.
Il faut être du blanc, du chardonnay.
Hop, je reste là. Je connais une influenceuse chardonnay.
Enfin, elle n'a jamais été seule puisqu'elle vit avec les livres et les vernis à ongles. Désormais, la suit comme une ombre. Celle plus prestigieuse de son prix féminin, plus celle du prix Landerneau, plus celle du prix des concours de lycéens. Bref, c'est une bande à elle toute seule. Clara Dupont-Mono.
Bonjour à tous.
De quoi est-ce que vous allez nous parler, Clara?
De la BD Spirou de notre amie.
Vous allez nous le mettre en condition. Et voici ceux qui ne font faire aucune concession à l'actualité. Je vous laisse tous les deux annoncer à nos auditeurs que vous êtes
Dominique Grange
et
Tardi.
Mais oui.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Dominique Grange et Tardy. Vous publiez Élise et les nouveaux partisans. C'est paru chez Delcourt. Élise est chanteuse. En 68, elle tourne le dos au showbiz pour s'engager dans la lutte aux côtés des ouvriers, des prolétaires. Après 68, pour Élise, pas question d'un retour à la normale. La lutte continue dans les usines, les prisons, les lycées ou les foyers de travailleurs immigrés. Alors le lecteur accompagne ses engagements qu'elle mène aussi en chanson. Il faut dire que l'adolescence d'Élise, c'est la guerre d'Algérie, puis plus tard viennent le printemps de Prague ou la guerre au Vietnam. Et Élise, c'est vous, Dominique Grange. Et comme dans la BD, Élise fait de la prison et vit 4 ans dans la clandestinité, et traverse tous ces événements, on se demande, est-ce que le moment de la transmission avec Tardy est enfin arrivé pour raconter tout ça?
Oui, tout à fait. Je pense que en prenant de l'âge, on se dit que c'est un peu dommage de garder tout ça pour soi. Que le témoignage reste toujours essentiel. Et là, il est aussi sincère et aussi simple que possible, puisque Élise est une militante de base. C'est pas une dirigeante du mouvement de mai 68, ni de ce qui a suivi. Mais elle vit la vie de beaucoup de militantes qui se sont établies en usine, qui ont complètement basculé, qui ont changé leur la voie qui a été tracée jusque-là et qui sont passées... au soutien, à la cause des plus discriminés, des plus oubliés, et du prolétariat tel qu'il était à l'époque dans les grands bastions ouvriers français.
Élise et les nouveaux partisans. Les nouveaux partisans, c'est une chanson que vous chantiez qui a été emblématique de ces luttes. On écoute un extrait.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef Fayon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans.
Voilà qui donne un peu la couleur de ce roman graphique en noir et blanc. Juliette ?
Oui, Les Nouveaux Partisans, cette chanson qu'on entend, c'est une chanson de 68. Et puis, 68 arrive, c'est un grand moment. Et puis, finalement, la révolution n'arrive pas. Et Élise, Dominique, en tout cas Élise dans le roman graphique, dit « D'accord, mais maintenant on fait quoi ? 10 millions de travailleurs en grève, les facs et les lycées occupés, le dialogue partout dans les rues, et tout ça pour rien. On rentre à la maison et on passe à autre chose. Maintenant, c'est pas possible. La lutte des classes continue. » Qu'est-ce qui fait qu'Élise, que Dominique, vous n'êtes pas Daniel Cohn-Bendit ? Qu'est-ce qui fait que vous avez continué, que vous êtes elle-même allée vous établir en usine, que...
Oui, alors l'établissement en usine, c'était vraiment consécutif à mai 68, ça a commencé début 69, c'était la politique de la gauche prolétarienne, l'organisation à laquelle j'appartenais, qui était une organisation maoïste, d'extrême gauche donc, et des centaines et des centaines de jeunes sont partis comme moi... s'établir en usine, y travailler. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle L'Établi, un bouquin de Robert Linhart, qui est très intéressant, parce que c'était le premier témoignage qu'il y ait eu sur cette forme d'engagement. Et donc, ben voilà, ça a continué, parce que c'était pas possible d'arrêter, c'était pas possible d'en rester là. Moi, j'ai eu la chance d'aller chanter dans les usines, donc de rencontrer des grévistes, de rencontrer de nombreux...
Dès mai 68, ça.
Pendant les 6 semaines, grosso modo, qu'a duré le mouvement. Et on avait fait un comité de grève active à la Sorbonne avec d'autres chanteurs qui presque tous venaient de la rive gauche, des cabarets rive gauche. Et donc on était tout le temps sollicités, tous les jours. On allait dans les usines, les tripostos, les dépôts de bus. Enfin, c'était extrêmement varié. On était en contact direct avec ceux qui luttaient pour changer la vie, pas seulement pour quelques francs d'augmentation horaire, mais pour vraiment changer les conditions de travail, se libérer des cadences, des petits chefs, de tout ce qui fait l'exploitation capitaliste en usine pour toute la vie.
Clara Dupont-Monod ?
Oui, vous avez cité L'Établi de Robert Linhart, qui est un livre formidable. Et je pensais aussi à un livre de Jean Mécaire, qui s'appelle L'Homme au marteau. Il y a toute une littérature comme ça autour des années militantes 70 qui est revenue un peu sur le devant de la scène. Ça, il faut plutôt s'en réjouir parce qu'elle a été assez endormie dans les années 80. 90. Et là, c'est depuis pas très très longtemps qu'on le ils sont réédités, on les redécouvre. Donc voilà, on pousse tout le monde. Mmh. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Dominique, à aller vers cette littérature qui décrit le bruit, l'effroi, la fatigue comme personne.
Mmh. Oui, absolument, parce qu'en plus, on a tendance à caricaturer mai 68. C'est vrai que l'image qui en est donnée les trois quarts du temps, c'est un joyeux mouvement d'étudiants. C'est un mouvement anti-autoritaire incontestablement, qui naît à l'université, mais il tombe à un moment où socialement, les travailleurs n'en peuvent plus et où la conjonction se fait d'une certaine façon, pas autant qu'on aurait souhaité qu'elle se fasse, mais les deux mouvements explosent et on voit bien qu'il y a un mécontentement général. Par conséquent, nous, on est dans une position bizarre, les artistes, parce que les artistes qui font grève, tout d'un coup, ça veut rien dire. Et quand Lenny Escudero à la radio, je crois bien à France Inter, lance un appel en disant voilà les chanteurs, prenez vos guitares, venez dans les usines, parce que cette grève, il faut qu'elle soit un moment qui pour nous soit aussi une façon d'accompagner la lutte, donc venez à Renault. Moi je suis partie avec ma guitare et puis plein d'autres aussi sans réfléchir. Mmh. Et ensuite j'ai pas pu recommencer comme je le faisais avant.
Et tout ça avec le dessin de Tardy, vous travaillez l'histoire, oui. Tardy et la mémoire avec beaucoup de rigueur et de précision dans le dessin aussi. Et au moment de passer des archives au dessin, est-ce que vous devez faire des concessions? Est-ce qu'il y a des choses que le dessin trahit ou sublime par rapport aux archives?
Oui, obligatoirement. Mais bon, cette histoire que vient de raconter Dominique, je la connais par cœur. Ça faisait des années que je lui disais, allez, raconte ton histoire. Il faut mettre des images sur tout ça. Bon, moi, j'étais pas militant. Mais bon, j'ai vécu tout ça, 68, le quartier latin, tout le bazar. Donc j'avais ça en tête et j'avais qu'une envie, c'était effectivement de coller des images sur tout ça. Alors il y a la documentation obligatoire qui intervient. Bon, c'est pas un problème. Aller faire des repérages aussi, aller sur place, prendre des photos, constater que les lieux ont changé, qu'il faut... Bon, je prends un certain plaisir à virer les McDo, par exemple, tout ce qui n'était pas sur le terrain à ouais. l'époque. Enfin, ça commençait un petit peu, mais c'était pas vraiment ça. Donc voilà, mon travail, ça a été d'essayer de rendre tout ça crédible avec l'image, intervention de l'image, qui aussi, par moments, permet de supprimer du texte. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du texte, l'image va remplir la fonction descriptive et autres. Alors, bien souvent, je disais à Dominique, je lui disais, attends, là, il faut qu'on s'aère, on cause trop, il faut qu'on sorte, il faut que ça vive. Donc ça, c'était mon principal problème, d'essayer d'équilibrer tout ça entre ce qui était à dire et à montrer.
Dominique Grange et Tardy donc nous propose Élise et les nouveaux partisans. C'est paru chez Delcourt et on va avoir l'occasion d'y revenir à maintes reprises dans cette émission.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Les singes, les toucans, les papillons.
maman tient dans ta main et qu'elle se sent bien. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi maman tient dans ta main et qu'elle se sent bien?
Philippe Catherine, j'ai compris qu'il a envie d'être stone avec elle. Vous écoutez Par Jupiter avec Dominique Grange et Tardy. Et pour les entourés, Juliette.
Un duo très complémentaire, Aymeric Lomprey et Clara Dupont-Mono. Et un être très complémentaire tout seul, Guillaume Meurice.
Et l'information tout de suite.
Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet ?
Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages.
Le journal de presque 17h17.
Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera des résultats de la primaire de la droite.
Ouais, Xavier Bertrand, flamboyant. Bravo, Xavier. Hein, t'es le meilleur, mon Xavier. T'es vraiment un champion.
Guillaume.
Oui.
C'est fini, hein.
Non, Charlie, c'est pas possible, ouais. Je peux pas le croire, pas Xavier, pas après tout ce qu'il a fait.
Écoutez, bon, écoutez, on parlera donc.
De la vainqueur de la primaire de la droite, bien sûr, Xavier Bertrand, non. Il est fort, il est beau, c'est le meilleur, c'est mon
Guillaume,
champion.
Guillaume, vous êtes sûr que ça va, Guillaume?
Parce non.
Que... Ok, je vois bien que ça va pas.
Ça
hein. Va pas. Reprenez-vous, Guillaume.
Ça va pas.
On parlera aussi d'Éric Ciotti et de Valérie Pécresse.
Je sais pas qui c'est, Charlie.
Mais ça va aller, Guillaume. Si ça va aller.
Non, ça va.
Ah, je suis avec vous.
Xavier.
Allez, je vous lâche pas. On commence par la politique.
Oui, Xavier Bertrand.
Qui a... Non, Guillaume, oh, oui. Ça suffit.
Bon, d'accord.
Xavier Bertrand, il a perdu, il est éliminé, c'est foutu, c'est fini.
C'est pas possible, c'est Charlie, mais c'est pas possible. Xavier Bertrand, il avait dit, il y a quelques jours, j'ai Bourdin.
Ça sera Bertrand au second tour. Non. Et je l'emporterai. Non, mais c'est comme ça que je vois les choses.
Oui.
Non, non, c'est pas une réponse.
Je comprends très bien que vous voyez les choses comme ça.
Eh ben oui, mais c'est logique. Mais j'en ai la conviction. Je vois l'écho de ma campagne sur le terrain.
Mais voyez l'écho de sa campagne sur le terrain.
Oui, mais l'écho, Guillaume, c'est quand on crie dans le vide et que personne ne répond.
Ah non, j'ai pas le cœur à la rigolade. Là, c'est pas possible qu'il ait pas gagné. Même Bourdin, il lui a posé la question.
Imaginons, ça peut arriver.
Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, au fond.
Non,
même.
Non. Vous croyez quand même que depuis des années,
oui.
Je me prépare comme je me prépare pour me dire, mais mon gars, tu vas jouer placé. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. C'est pas un gars qui joue placé.
Non, c'est un gars qui a fait une genre à s'en placer, par contre. Il va disparaître.
Ça me fait mal au cœur, ce que vous dites.
Mais bon, allez, parlons Éric Zemmour, parce que ça va vous détendre. Oui, selon Hervé Morin, la candidature de Zemmour relève presque de la psychiatrie.
D'accord. Bah, merci aux auditeurs de nous partager leur coup de gueule, mais on va essayer de parler vraiment que des gens connus.
Mais
parce
attendez,
que, si on
Hervé Morin, c'est le mec du centre.
Non, mais Charline, peu importe, soit du centre, de l'est, de l'ouest, on reste vraiment sur les gens. Non, parce que sinon, si tout le monde peut donner son avis comme ça, on reste sur les gens connus, quoi.
Mais il est connu.
Hervé Morin, vous êtes sûr de ça?
Attendez, parce que vous mettez le doute.
Voilà, bah oui, non. Allez, merci Hervé, si tu nous écoutes. Allez, ciao, on enchaîne.
À propos de la lutte contre les violences faites aux femmes, oui. Éric Dupond-Moretti a déclaré « On a fait le job ».
Non, le job. C'est « On a fait le job », Charline.
Vous êtes sûr?
Oui, je sais que vous avez un rapport privilégié aux job. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que...
On enchaîne, non?
Oui, oui, c'est parce que là, ça va devenir gênant.
Aux États-Unis, un policier a abattu un homme en fauteuil roulant qui lui tournait le dos.
Ah là là là. Il n'y a pas à dire, même en termes de violence policière, les ricains, ils sont toujours en avance sur nous. Toujours un cran.
Biologie à présent, des scientifiques ont réussi à lire dans l'esprit des méduses.
Alors ça, c'est fou de se dire qu'on est capable de comprendre les méduses, mais qu'on n'est toujours pas capable de comprendre les questions d'Augustin Trapenard.
Ouais, alors quand je pense qu'il y a une équipe de 500 scientifiques dessus. Et
incroyable, incroyable. Allez, science toujours.
Oui, une étude désigne la France comme l'un des pays les moins généreux au monde.
Oui, enfin, c'est pourtant un pays qui paye les travailleurs belges avec la redevance des Français, quand même. Je tiens à le signaler, il faut le dire. Charline.
On enchaîne ?
Oui. Bon, allez. Des chercheurs de l'Université d'État de Géorgie, de l'État de Géorgie, ont découvert que manger trop salé réduirait le débit sanguin dans le cerveau.
Et je rappelle que la raclette est un des plats les plus salés.
Oui, et enfin, j'aimerais conclure ce journal en parlant de Xavier Bertrand, qui n'a pas dit son dernier mot, Xavier. Il va revenir. Il va revenir.
Allez, on arrête. Jingle,
non, mais c'est pas possible.
Vous êtes dans le déni. Ça
moi, je peux rien faire. Comme
allez,
ça, Charline.
On revient avec Dominique Grange et Tardy qui sont avec nous pour cette magnifique bande dessinée Élise et les les nouveaux partisans chez Delcourt, qui va vous donner envie de continuer la lutte, Guillaume.
Vous inquiétez pas. Sans Xavier Bertrand, allez, c'est pas pareil.
Entre camarades, ressaisissez-vous. Entre deux arrestations d'opposants, une exécution et trois petits lynchages homophobes, l'Arabie Saoudite organise un Grand Prix de Formule 1 et un concert prévu dimanche, auquel participeront Justin Bieber notamment et David Guetta. L'Arabie Saoudite fait en sorte de proposer aux artistes des cachets qu'il est, paraît-il, difficile de refuser. Et qu'en dit David Guetta ?
Et puis il y en a marre de discuter. Dans ce pays, tout va mal parce qu'on passe son temps à discuter. Regardez les Arabes, ça va bien chez eux. Eh oui, ils sont plus riches que nous. Et pourquoi ? Parce que leurs dirigeants n'arrêtent pas de zigouiller les gens. Et que je te pends, et que je te lapide, et que je t'empale. Alors forcément, la rigueur, ça paye, hein ? On va y aller dans la rigueur. On a une guillotine que le monde entier nous envie. Et ben on va s'en servir.
Liberté, égalité, choucroute, le film de Jean-Yann, bien sûr. Alors, la fiancée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui a été assassiné en 2018, a écrit à Justin Bieber dans le Washington Post, je la cite, « C'est une occasion unique pour envoyer un message fort au monde indiquant que votre nom et votre talent ne seront pas utilisés pour redorer le blason d'un régime qui tue ses opposants. » Alors, Dominique Grange est tardi. Dominique Grange, vous qui avez quitté le showbiz pour vous mettre vos chansons aussi au service de la lutte politique. Je me suis dit tous les deux que ce sujet peut-être devait vous parler de ces artistes qui vont jouer pour un gros cachet en Arabie Saoudite.
Oui, oui, tout à fait. C'est purement...
mais on dit du mal.
Oui, c'est un peu le sous-texte, oui, mais ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien.
Enfin, c'est insupportable. Je veux dire, on sait que l'Arabie Saoudite avec ça, fait partie de la coalition militaire contre le Yémen, qu'elle achète des armes à la France. On est un énorme pourvoyeur d'armes pour plus de 700 millions, je crois, d'euros en 2021. Donc, je comprends pas que des artistes soient à ce point indifférents. C'est un pays où les violations des droits de l'homme sont quotidiennes. Il y a des centaines d'opposants emprisonnés. Et puis, il y a eu cet assassinat... de Jamal Khashoggi, qui était complètement arrangé, organisé par l'Arabie Saoudite. Ben oui, mais il y a des artistes qui ont, je sais pas ce qu'ils ont à la place de leur conscience politique, ils ont un bout de mou.
On voit plus tellement, évidemment, d'artistes engagés auprès des ouvriers, après de moins en moins d'ouvriers, les usines ferment, donc, évidemment. Mais même dans les manifs, quand on va dans les manifs pour défendre les retraites, la loi travail, etc., les
bah, y a nous, quoi.
Oui, on n'est pas artiste et on n'est pas showbiz, donc ça marche pas. Est-ce qu'ils s'engagent autrement? Des gens comme vous, comme Élise, en fait, dans cette bande dessinée, il n'y en a plus aujourd'hui, c'est le vieux monde ou quoi, Tardy?
Moi, je pense que les artistes s'engagent autrement dans leur travail. Les bouquins qu'ils écrivent ou n'importe quoi. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas militant. Mon idée, j'adhérais aux idées de 68, mais ce que je voulais, c'était les exprimer dans mon travail, c'est-à-dire raconter des histoires qui, si possible, n'agacerait pas les gens, ne les abrutirait pas, mais dans lesquelles ces idées seraient exprimées. Mais avant tout, raconter une histoire et en profiter pour faire passer ses idées.
Et cette exposition en Arabie Saoudite, ça se passe comment?
Oui, oui, mais d'ailleurs, la semaine prochaine, on fait une signature là-bas sur le terrain.
Ça, je me disais aussi.
Non, mais de la même façon qu'il y a eu un boycott, par exemple, de la participation d'Israël à la, comment s'appelle le concours,
l'Eurovision,
il y a deux ans, ou il y a un an, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était avant le confinement. Bon, de nombreux artistes se sont prononcés contre leur participation à ce concours international. Pourquoi? Parce que, bon, c'était une façon de dénoncer la politique du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniens. Et ça, c'est des prises de position qui font mouche, qui ont une importance, qui ont un impact pour les médias et pour l'ensemble des gens. Ça les fait réfléchir. Ah oui, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc je pense que les artistes ont un rôle très très important à jouer, que même si ça se passe d'une façon différente par rapport à l'époque 68 et les années 70, parce que ça a continué aussi tout le long des années 70, C'est une résistance, c'est une façon de résister qui est essentielle. Et pour ma part, je veux dire, même si elle se passe pas plus dans les usines, elle se passe ailleurs. Des précaires, il y en a. Tous les travailleurs ubérisés qui n'ont aucun droit, il faut s'en occuper, il faut s'y intéresser, etc. Enfin, je veux dire, on est entouré par des gens qui sont opprimés, exploités. Il faut simplement savoir les voir.
Et on a aussi un artiste punk à chien chez nous dans cette émission. C'est Éric Lompré.
Bonjour à tous, vous allez bien ?
Oui !
Oui, j'ai rien entendu !
Oui !
Moi, je suis en super forme. Vous le savez, j'ai fait du foot hier et j'ai gagné 8-0. Après, on a mélangé les équipes, on a mis les femmes avec les hommes. Et ça vous manque pas, vous, les années 90, Zidane, le plein emploi, les agressions sexuelles, les 40 ans de Charline. Putain ! Non, mais en fait, j'ai regardé Envoyé spécial sur Nicolas Hulot, là. Hein, c'est à charge, hein. Y a plus trop de doute, là. Quand il y a quatre meufs qui t'accusent, qu'Élise Lucet t'appelle au petit déjeuner et que Dupont-Moretti prend ta défense, ça sent pas bon. Bah, Moretti, il défend pas les gens quand il n'y a pas besoin. Alors, lui, il aime bien le challenge. Fallait le voir interroger les gosses pendant l'affaire d'Outreau. On est vraiment à l'opposé de l'école Montessori. Hein. Je me suis fait violer. Menteur! Non, mais tu le laisses 2 minutes avec Jean Moulin, il s'était tout pété sur le torse. Même Nicolas Hulot, il a lâché l'affaire, il s'est retiré de la vie publique. C'est pas la meilleure défense, hein. Tu sais, on dirait moi quand j'ai perdu mon permis de conduire. Non, c'est bon, me faites pas souffler, prenez-le le permis. Mais vous l'avez donné au chien, monsieur. Je pensais que c'était le chef. C'est le seul qui avait la rage, hein. Mais on aurait dû s'en douter quand même que Nicolas, tu sais, avait déjà avec les publicités où Chouya gel douche, là. C'était jamais ton voisin Bernard qui se frottait les tétons sous une cascade, hein. Moi, quand j'étais petit, j'attendais les pubs avec impatience en me tirant sur le zouizoui comme ça. J'étais là, Emric à table, lâche ton zouizoui. Oh non, attends maman, je vais quand même pas me finir sur Royal Canin. Oh, viens tout de suite, c'est ta sœur qui va te finir. Je vous ai dit que j'étais du Nord. Non mais force est de constater que nous les hommes, on est quand même de sacrés gros enculés avec les filles. Alors je dis les hommes en général, même si je sais qu'on a des biens. Bah, par exemple Guillaume c'est quelqu'un de bien. Je sais pas si vous avez déjà vu draguer Guigui, mais on est loin de l'agression sexuelle. Hein, bonjour madame, est-ce que je peux... Non, je préfère qu'on reste amis. Guillaume, il croit qu'on se dit au revoir comme ça. Je préfère qu'on reste amis. Tous les jours dans le couloir, quand il part, il dit je préfère qu'on reste amis. Non mais moi je dis heureusement qu'il y a eu MeToo. Heureusement. Sinon on aurait eu Hulot président, Baupin à l'écologie, Pierre Ménès au sport, Richard Berry à la culture, DSK aux finances, Olivier Duhamel à l'éducation et PPDA premier ministre. Alors comment ça va la condition des femmes ?
Ça va.
Vous imaginez le conseil des ministres ? Bon, on va commencer, mais d'abord, les putes ! Non mais les générations futures nous regarderont comme nous on regarde l'esclavage. Tu sais, on est là, non mais c'était honteux de vendre des êtres humains, et nos petits-enfants, ils seront là, c'était Marlène Schiappa qui défendait les femmes ? Eh, c'est vrai que si on avait mis Dupont-Moretti, ça aurait été autre chose, hein. Mais j'ai violé personne. Menteur ! Alors, je vais dire un truc démago. On met jamais de crème fraîche dans les carbos, hein. Bon, je vais dire un autre truc démago, mais qui est en lien avec la chronique. Moi, ce qui me surprend le plus souvent, non mais c'est vrai, c'est la manière dont on remet en question toujours la parole des femmes. Tu sais, tu sais, on est toujours là. Oui, mais bon, est-ce qu'à un moment il n'y a pas eu séduction ? Pourquoi elle a mis autant de temps à parler ? Est-ce qu'elle ne l'a pas cherché ? Est-ce qu'elle ne porte pas plainte pour se faire connaître ? Non, traumatisme, non et non. Burger de la mort. Alors, vous allez me dire, mais Emric, et la présomption d'innocence ? Alors, vous avez raison. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, même les coupables sont innocents. Merci de m'avoir écouté.
C'était Émeric Lompré. Merci Émeric.
Merci à vous.
Pardonnez-le, il vient du Nord. Vous écoutez France Inter, restez avec nous.
When will we die? This life isn't fair. I miss the high. I live a lie. And one day we'll die. No one will care. Take me inside. I'll meet you there.
Miller qui chante Yeah. Et yes, c'est un propos engagé dans la lutte, certainement. Et Dominique Grange et Tardy sont avec nous. Élise et les nouveaux partisans parus chez Delcourt. Et Juliette Arnaud, vous avez une petite question pour nos invités.
À un moment donné, dans l'histoire d'Élise, juste avant que ce soit la fin de la gauche prolétarienne, il est écrit « La gauche prolétarienne n'est jamais passée à la lutte armée », ce qui n'a pas été le cas d'autres mouvements gauchistes de cette même époque. Est-ce que, rétrospectivement, c'est un regret ou un soulagement, Dominique ?
Ça fait rire Tardy.
C'est la question.
C'est raide, hein ?
Ouais, c'est... Non, c'est en aucun cas la nostalgie. En aucun cas. C'est un soulagement. Ben oui, quelque part, c'est un soulagement. Parce qu'on ne serait pas aujourd'hui, je ne sais pas où on serait, mais étant donné la force de l'engagement de chacun d'entre nous, je dis bien de chacun d'entre nous et chacune, je pense qu'on y aurait tous été. Que ça n'aurait pas été... même discuter, enfin, c'était discuté quand même, c'était discuté beaucoup avec notamment les intellectuels qui nous entouraient. On était toujours en débat avec Sartre, avec Genet, Maurice Clavel, etc. Tous ces intellectuels qui étaient venus un petit peu à notre secours quand on a été interdit et que les directeurs successifs de la cause du peuple ont été jetés en prison. Puisque Sartre est devenu à ce moment-là rédacteur en chef de la cause du peuple. Donc je pense que le fait qu'il y ait cette discussion très ouverte sur la question de la lutte armée et de l'homicide, par conséquent, a été quelque chose qui nous a aidés à faire sortir des valeurs auxquelles on était attachés, qui sont notamment le refus de la peine de mort.
En tout cas, vous l'avez échappé belle, on le voit on le comprend dans cette bande dessinée. Clara Dupont-Mono, il va y revenir dans quelques instants. Et d'abord, l'engagement aussi, il en est question avec Guillaume Meurice, avec un sujet engagé.
Oui, sujet engagé, parce que je voudrais revenir sur une phrase de Nicolas Dupont-Aignan dans la matinale d'hier. Ouais. Oui, parce que j'ai écouté Nicolas Dupont-Aignan interrogé par Léa Salamé. Chacun ses déviances. Il y en a qui aiment mettre leurs testicules dans des appareils à raclette. Chacun son moyen de se faire du bien. Qui sommes-nous pour juger? Dupont-Aignan, donc, a parlé de, je le cite, la classe parisienne qui ne sait pas ce qui est la vraie vie. Et ça, c'est nous. Il a raison, on est déconnectés. Quand on signe à France Inter, on reçoit chacun une tour d'ivoire à Saint-Germain-des-Prés, un coffret des albums de Vincent Delerme et une photo dédicacée de Bernard Guetta. Et on oublie d'où on vient. Clara, par exemple, elle vient des Cévennes. Hein, à la base, elle est destinée à être bergère ou tueuse en série. C'est un petit peu les projets de vie qu'il y a là-bas. Mais elle a oublié ça, elle a oublié d'où elle venait. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que la France est désunie. Et moi, mon projet, c'est d'unir la France. Alors, comme j'avais pas le budget et pas le temps pour faire un tour de France en une matinée, je suis allé au salon des vignerons indépendants. Hein, ce que Juliette appelle Disneyland, hein, finalement. Toutes les régions de France étaient représentées, donc ça tombe bien, j'ai commencé, tac, on y va tout de suite, le stand de l'Alsace. Bonjour, l'Alsacien.
Ah ouais. Non, pas du tout. Je suis pas une tête d'Alsacien, moi.
Ben, je sais pas.
Ah, c'est un Alsacien, il a sa tête. Hein.
Vous arrivez à reconnaître les Alsaciens?
Oui. 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 Ah oui. Je reconnais les gens à leur tête.
Ah ouais.
Regardez, lui, il est devant vous, il a une tête devant vous.
Ah bah merde. Bah ça commence mal. Ouais, non, mais il n'avait pas une tête d'Alsacien. En revanche, j'avais jamais vu de mec avec une tête devant vous. Et bah c'est impressionnant. Hein. Ah, mais c'est à mi-chemin entre la tête d'Emeric et un mec en descente de crack. Bah la tête d'Emeric, quoi, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Bon, je commence pas très bien pour unir la France. Donc lui, on est d'accord, c'était un Parisien.
Non, je suis pas Parisien. Moi, je suis de Montrouge, juste à côté. Mais je suis pas Parisien. On est à Montrouge. Les Parisiens, ils restent chez eux. Nous, on reste chez nous.
Mais Montrouge, ça touche quand même, non ?
Eh oui, mais...
Ouais, c'est de l'autre côté du périph',
quoi. De l'autre côté, hein.
Il y a un état d'esprit à Montrouge, il y a une culture à Montrouge différente.
Ah, c'est un petit Neuilly, hein.
Oui, bon, d'accord, c'est un Neuilly discount. Bon, je vous avoue que je pensais pas autant galérer à unir la France, j'arrive pas à unir le Grand Paris, déjà, je suis dans la merde. J'ai l'impression d'être un mélange d'Anne Hidalgo et de Jean-Paul Houchon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas cité Jean-Paul. D'ailleurs, je l'ai mal dit, c'est Houchon.
Huchon.
Ouais, mais je sais que ça vous ferait plaisir, Charlie.
Merci,
Jean, vous pensez que si on prononce son nom trois fois, il apparaît Jean-Paul Huchon. Bon, on verra. Allons voir le Languedoc, parce que j'ai un projet, c'est d'unir la France quand même. Languedoc, un pays de calme, de tempérance, hein, où au moins on va pouvoir en parler union, diplomatie.
On a le sang chaud, on a un caractère bien trempé et quelquefois on vibre un peu quand on s'exprime.
Ça, vous aimez bien la bagarre, quoi.
Un petit peu, oui.
Moi, j'ai pas peur parce qu'à la bagarre, moi, ça me connaît, hein. Tout ce qui est combat de rue, quoi. Bon, c'est vrai, on parlait de la violence. Moi, j'ai un corps qui est taillé pour ça. Hein. Donc ça tombe bien. Mon projet, c'est quand même d'unir. Alors, j'aime le risque. Je suis allé voir les Corses parce que si on décide d'unir la France, il faudra convaincre les Corses aussi.
Eh ben, écoutez, les Corses sont des gens très accueillants.
À partir du moment où on les emmerde pas, ils sont adorables.
Ah ouais.
Voilà, ils détestent qu'on les emmerde.
Mais est-ce qu'ils sont susceptibles ?
Comme tout le monde.
Ouais, c'est le problème. Ça va, Tardy, ça se passe bien. Ouais. C'est le problème des gens susceptibles. Faut pas leur dire qu'ils sont susceptibles. Mais je dis pas que c'est le cas des Corses, hein, parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est quand même vivre. Hein, déjà, ça c'est important. Bon, l'Union de la France patine un petit peu. Alors j'ai quand même trouvé une solution. J'ai une piste. Ce matin, j'ai croisé, figurez-vous, un royaliste vénère.
La guerre civile, ça commence à bien faire.
Mais il y a une guerre civile en ce moment en France, vous pensez ?
Écoutez, il y a des violences.
Alors ça serait une guerre entre qui et qui ?
Ben, les gens violents qui regardaient ce qui se passe, regardaient certains mouvements qui sabotent les réunions des autres, regardaient les violences, enfin ça existe quand même.
Vous parlez des gens d'extrême droite ?
Je parlerais plutôt des black boys, mais enfin...
Alors, attendez, les black boys, c'est une catégorie YouPorn, hein, donc ça n'a rien à voir. Les black blocs, d'accord, en effet, ils usent de violence contre la BNP, voilà, les antifascistes aussi. Je rappelle que Jean Moulin était un antifa, hein. Heureusement quand même qu'il y en a eu quelques-uns par le passé pour défendre la République. Mais lui, son projet, c'était pas la République, hein, il voulait la royauté.
Bon, la légitimité du roi n'est pas lui donner raison, c'est reconnaître que pour le moment, il s'inscrit dans une continuité qui nous fait coexister.
Et pourquoi pas une reine alors ?
Mais une reine, simplement, je vous fais remarquer qu'aussi légitime que soit, enfin aussi, c'est pas tout à fait la même vocation. En France, la tradition depuis la guerre de 100 ans, c'est la tradition salique. Mais enfin, de toute façon, au point où on en est.
Oui, on pourrait bien mettre une bonne femme. Je veux dire, au point où on en est, alors là, je veux dire, voilà, plus rien à perdre. Parce que là, c'est sûr, j'ai pas bien réussi à unir la France. J'étais sur le point de me suicider avec un tract Xavier Bertrand en 2022, vous voyez, en me taillant les veines. Quand tout à coup, coup de bol, je suis tombé sur une Anglaise.
Les Anglais détestent les Français. J'ai commencé à comprendre comment ils fonctionnent, les Français. Ils sont très cash, un peu trop secs, donc ça blesse. Genre, pas très sympathique, un peu bête.
Eh ben, ben voilà, j'ai trouvé la solution. Unissons-nous contre les Anglais. Oui. Mais on a toujours fait ça. C'est ça notre ADN en France. C'est ça qui nous fédère depuis des siècles. Puis ça fera des vacances aux musulmans. Voilà. Allez, ben, j'ai trouvé la solution, je vous laisse. Je vais aller me faire du bien en écoutant Alain Duhamel qui interroge Eric Ciotti. Allez, bon week-end.
Merci Guillaume Meurice, Dominique Grange et Tardy. Juliette va vous proposer un autre sujet. La loi contre la maltraitance animale qui vient d'être adoptée par le Parlement, quoique porteuse de progrès, ne va pas satisfaire les militants de l'association L214, par exemple. Les lobbies agricoles et de la chasse ont réussi à protéger leurs intérêts, qui sont quand même sensiblement différents de ceux des animaux. Ah, et puis il y a aussi la tradition locale ininterrompue. Quoi c'est ? Mais si, vous connaissez.
Un cadeau idéal, le bêtisier des corridas. Tous les moments les plus rigolos réunis pour vous sur une seule cassette de 55 minutes. Le bêtisier des corridas, c'est 55 minutes à se tordre. Et à la fin de ce spectacle hallucinant, vous pourrez dire « Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces toreros !» Le bêtisier des corridas, à voir dès le matin en buvant son café. Olé !
La blague finale est somptueuse. C'était les nuls et c'était surtout Chantal Lobby. Dominique Grange Tardy, c'est vous qui nous avez proposé ce sujet sur la souffrance animale. Donc on voit bien qu'avec la loi qui vient de passer, les choses bougent, mais pour les gens vraiment concernés, les militants, et donc pour vous, j'imagine que c'est encore assez dérisoire.
Bah, c'est-à-dire que ça laisse de côté tout un pan de la souffrance animale.
Voilà, il y a certains animaux qui vont être un petit peu plus protégés, les animaux domestiques notamment.
C'est ça, tout à fait. Il va y avoir l'interdiction des cirques, des animaux sauvages dans les cirques, l'interdiction des animaux, de l'élevage des animaux à fourrure, les visons. Mais on ne parle absolument pas de l'élevage intensif, on ne parle pas de ce que vivent les animaux avant d'aboutir dans les assiettes des gens. Et ça, c'est quand même considérable, parce que ça, ce sont des centaines de milliers d'animaux qui sont tous les jours tués, après avoir été souvent torturés, battus. Enfin, je pense que à cet égard, L214 a fait un travail de popularisation, si je peux dire, entre guillemets, de la souffrance animale, un travail en images qui est absolument exceptionnel, d'ailleurs qui a été, pour beaucoup d'entre nous, à l'origine de la prise de conscience de cette souffrance et aussi du fait que personne ne faisait rien, strictement rien par rapport à ça. Mais tout d'un coup, donner à voir les images, montrer, ça fait qu'on peut plus aujourd'hui l'ignorer.
Oui, il y a encore des images aujourd'hui d'un élevage porcin qui sont...
Oui, le regard du cochon, là, c'est absolument...
c'est épouvantable, épouvantable de ces pauvres bêtes qui sont dans une crasse totale, qu'on émascule, on leur arrache les couilles, etc. Comme ça, à blanc, bon, c'est épouvantable, on ne comprend pas comment on peut faire ça. Alors je sais aussi que pour beaucoup d'employés, enfin beaucoup, j'en sais rien, mais beaucoup de personnes qui travaillent dans les labos, c'est aussi insupportable de faire ça. Certains craquent complètement, ça se comprend. Mais qu'on puisse faire ça, tolérer ça, à ça va s'ajouter aussi les labos. Les labos, des expériences qui servent pratiquement à rien du tout, où on voit des animaux, des lapins, des chats, n'importe quoi, des électrodes, des trucs dans les... Il y a eu un documentaire, on voyait des cages avec des singes au regard désespéré. C'est absolument épouvantable.
Donc les animaux...
Ça met en colère, vraiment.
Animaux damnés de la terre comme les autres.
Oui, tout à fait.
Alors, Lamartine a dit, on n'a pas de cœur, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas.
Joli.
Et c'était il y a un paquet d'années déjà.
En tout cas, pour la charcuterie corse tardie, là, c'est un petit peu... C'est foutu.
On peut dire quand même, oui. Parce que je crois que c'est important, là aussi, de s'engager de cette façon-là, que nous, on est véganes.
Ah, ok.
Depuis les premières images de L214, mm-hmm. ça date de 2015. Et c'est quelque chose qui est irréversible pour nous. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on ne peut plus manger la chair des animaux. Mm-hmm. C'est la souffrance des animaux, c'est quelque chose qui, une fois que ça vous est apparu, vous comprenez que quand on n'a pas de voix, quand on n'a pas la parole, et ben il faut que d'autres la prennent pour vous. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ça fait partie aussi des engagements. Pour moi, c'est pareil que les engagements que j'ai pu avoir par le passé.
Se prolongent aujourd'hui sur les nouveaux engagements.
Complètement.
Eh oui, complètement. Eh bien, revenons-y alors. Élise et les nouveaux partisans, Dominique Grange-Tardy, chez Delcourt, avec Clara Dupont-Monod.
Eh bien oui, donc c'est vous, notre actualité Tardy au dessin, Dominique Grange au scénario, avec cette BD Élise et les nouveaux partisans. Alors c'est une BD, je trouve, que l'on devrait offrir à tous ceux qui disent « c'était mieux avant ». Parce que votre BD, elle montre un affrontement inédit entre en gros 1961 et 1978. Un affrontement entre la notion de violence et celle de la brutalité. Mais n'ayez pas peur, vous allez voir. Non, je vous assure.
Je crois qu'ils n'ont pas peur, non, en
non.
général.
Non, non. Vous avez cité Dominique tout à l'heure, Jean Genet. Dans un texte de septembre 1977, l'écrivain donc Jean Genet fait une distinction très intéressante entre violence et brutalité. Pour la violence, il dit, je le cite, « violence et vie sont à peu près synonymes ». Et il mentionne le grain de blé qui fend la terre gelée, le bec du poussin qui brise la coquille de l'œuf, l'accouchement. Cette violence relève du phénomène vital. Alors que la brutalité, c'est l'inverse, elle vise la destruction. Jean Genet donne plusieurs exemples, dont, je cite, « l'inutilité de la gifle dans les commissariats » ou « le tutoiement policier envers qui a la peau brune ». Il se trouve que cette brutalité, votre album le montre, c'est une force policière cognante, insultante, raciste, qui en 1961-62 ratonna notamment les Algériens, les jeta dans la Seine ou les écrasa contre les grilles du métro Charonne. Ce high-level barbare ayant été orchestré par un sultan de la brutalité qui était Maurice Papon. Mais ce que montre aussi votre album, c'est que en réponse à cette brutalité d'État, il y a eu la violence militante. Le début des années 70 voit la naissance de groupes d'extrême gauche auxquels adhère Élise, votre héroïne, qui certes sont belliqueux, mais pour que naisse un monde nouveau, pour l'avènement d'un système plus égalitaire. On est là dans cette énergie salutaire dont parlait Jean Genet. Le problème, c'est que cette énergie se heurte donc à la brutalité, et pas seulement policière. À l'intérieur aussi du mouvement, ce sont les groupes d'extrême gauche qui se mettent en fait sur la tronche, mais entre eux. Ce sont les consignes qui parfois ressemblent à des ordres. C'est un militant qui vole les économies d'Élise, vraie brutalité pour elle. Ou bien c'est son mouvement à elle, la gauche prolétarienne, qui décide sa propre dissolution sans rien demander à sa base. Et plus tard, Élise réalisera que le maoïsme dont elle se réclame, eh bien en fait, lui aussi relève d'une immense brutalité. Donc on voit que la violence, comme condition d'une nouvelle vie, échoue ou se heurte à cette brutalité qui en fait est partout. Parce qu'on la voit dans cet album, elle est aussi sociale avec les bidonvilles aux portes de Paris. On l'a un peu oublié, mais Tardi, vous le dessinez très bien. Elle est professionnelle. À un moment, vous le disiez, Élise part travailler en usine. D'après Mao, qu'elle cite, il faut être dans les masses comme un poisson dans l'eau. Or, elle est très très frappée par l'agression rythmique, séquentielle de l'usine. Alors, elle allait un peu à l'usine comme on va faire un voyage. Elle dit « J'ai eu du mal à trouver le sommeil tellement j'étais excitée. » Bon, et de la même façon, elle ne dit plus trop « mort aux bourgeois » quand il s'agit d'appeler ses parents « bourgeois » pour avoir un peu de sous pour payer son loyer. Bon, mais au final, vous avez montré une époque qui se sera illustrée par un combat terrible. C'est que d'un côté, il y a la violence féconde d'une jeunesse, et de l'autre, il y a la brutalité stérile d'un pouvoir. Et la vraie question que moi je me suis posée après la lecture de votre album, c'est qui a gagné ? Alors, je vous redonne les références, après vous répondrez avec plaisir. C'est Élise et les nouveaux partisans de Dominique Grange et Tardi aux éditions Delcourt.
Une réponse à la question ?
Personne n'a gagné. Ouais. Personne. Je pense que les idées, par contre, ont gagné. Les idées qui sont pas nées d'hier, qui sont pas non plus nées en 68, parce que les idées d'émancipation, de liberté, de justice sociale, d'égalité, sont les idées de la Commune, ce sont les idées de la Révolution de 48, ce sont les idées de la Révolution de 89. Elles ne viennent pas, elles ne sont pas tombées du ciel. Elles nous sont venues au fur et à mesure que des mouvements sociaux se sont développés et on les a reprises. On en a hérité, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « N'effacez pas nos traces ». Suite à ce qu'avait dit Sarkozy, qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68, il avait dit ça, un célèbre discours de Bercy.
C'est lui qui nous a incité à faire cet album, je vous remercie.
Oh, on lui dit merci alors.
On lui dit tout à fait merci.
Donc cette chanson « N'effacez pas nos traces » dit exactement ça, c'est qu'on est nourri des révoltes qui nous ont précédées, et je pense que les nôtres, comme celle de 68 et de tous les mouvements qui ont eu lieu ensuite, tous les mouvements sociaux, y compris ailleurs, vont nourrir des révoltes qui sont à venir. Voilà, donc je suis complètement convaincue de ça, je me fais aucun souci, je sais que la colère pour beaucoup de gens est là, on a vu avec les gilets jaunes quand même. Hein.
Et puis même par rapport à l'écologie par exemple, la jeunesse absolument. Aujourd'hui, elle est complètement mobilisée avec une espèce de colère sourde oui. Que Jean Genet n'aurait peut-être pas renié sur l'idée de vivre autrement, mais on est bien dans l'avènement de quelque chose de nouveau, en tout cas dans oui. Leur espoir.
C'est un élargissement aussi des fronts de lutte et la lutte aussi contre la souffrance animale et pour changer nos modes alimentaires et nos façons de vivre. Toutes ces luttes-là auxquelles on ne pensait pas à l'époque sont aujourd'hui en cours et c'est ça la relève. C'est les jeunes qui se sont emparés de ces thèmes, c'est notre relève, mais je pense que tout ce qu'on a pu apporter dans nos résistances, dans notre refus de nous contenter de ce qu'on avait, c'est quelque chose qui est, c'est comme des petites graines qu'on a plantées. Voilà, je crois à ça, je crois que ça.
Et aux rivières souterraines.
Et aux rivières souterraines. Ah ouais, mais vous savez tout.
Dominique Grange, dites donc Tardi, si c'est la lutte pour descendre les poubelles, ça doit être sympathique. Alors, pour le Parjupi Proust, vous êtes prêts, Juliette Arnaud ?
Moi, je suis très, très prête.
Tardi, Dominique Grange, un petit questionnaire.
Dominique Jacques, sur l'échelle du livre engagé à gauche et qui va de 0 à 10, 10 étant le voyage à motocyclette de Che Guevara et 0 étant la vraie bataille d'Alger du général Massu, à combien estimez-vous votre roman graphique ?
À 8.
Ça me semble juste. Dominique, vous êtes d'accord ?
Oui, oui.
En 1968, Dominique, vous écrivez votre chanson « Les nouveaux partisans ». La même année, il y a eu « L'opportuniste » de Jacques Dutronc, « Le temps des fleurs » de Dalida et « À tout casser » de Johnny Hallyday. Laquelle de ces trois chansons ressemblait pas mal à mai 68, à part la vôtre ?
Aucune.
C'est la vôtre. Si vous étiez un autre couple qui travaille ensemble, est-ce que vous seriez plus Stone et Chardin, Sonny and Cher ou les Ceaușescu ?
John Lennon et Yoko Ono.
Ah ouais. Très bien. Qui aimeriez-vous voir s'établir en usine ? Éric Ciotti ou Valérie Pécresse ?
Pécresse.
Les deux. Vous roulez pour Pécresse, Tardi.
Dominique, si Tardi n'avait pas voulu dessiner cette histoire, qui d'autre ?
Walt Disney, Chris, moi. Je dessine pas mal, je crois.
Ah, pas mal, pas mal.
Moi ?
Non, oui. J'aurais écrit un livre.
Ah, vous auriez écrit un livre ?
D'ailleurs, tout le temps, il me disait, arrête, tu donnes trop de détails, laisse-moi la place pour l'image, ou alors écris un livre.
Mais peut-être que le livre, il arrivera un jour. Selon vous, quel ancien Mao conserve le plus de la philosophie originelle ? Serge Julie, Philippe Solers ou Alain Finkielkraut ? Ne vous cachez pas, Dominique, je vous vois.
Je suis incapable de répondre à ça. Aucun !
Aucun, ouais, je m'en doutais un peu. Qu'est-ce qui est le plus pénible dans le maoïsme ? Les séances d'autocritique ou le col Mao ?
La casquette, la petite casquette.
C'est vrai que c'était pas terrible.
Merci beaucoup Dominique Granger-Tardy. Je rappelle Élise et les nouveaux partisans parus chez Delcourt. On le conseille chaleureusement.
Ah oui.
C'est vraiment magnifique. Et puis c'est un cours d'histoire aussi.
Oui, les années de plomb en France, ça a existé.
Sous le sapin pour renverser la table à Noël.
Merci beaucoup.
Merci à vous infiniment, merci beaucoup. Je vous dis à demain. Et il arrive que le mot de la fin soit un hommage. Et nous tenions aujourd'hui à dire au revoir à Xavier Bertrand.
Merci.